Interview.
2 jours.
Bonjour à tous, vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Rodin. Bonjour.
Bonjour Émilie.
Vous êtes venu rendre visite au DIWA dans le cadre de la semaine de l'écologie.
Oui, exactement, et avec un très grand plaisir.
Vous êtes venu partager le devant de la scène avec Pierre Rabhi, entre autres.
Oui, je ne sais pas si je vais vraiment partager le devant de la scène avec lui, mais c'est un honneur en tout cas d'ouvrir la soirée qui lui est consacrée.
En tout cas, vous avez un livre qui est édité, dans quelle maison d'édition d'ailleurs ?
Alors c'est une maison d'édition lyonnaise qui s'appelle LGO, collection référendum, une collection citoyenne.
Dans lequel vous publiez donc un échange avec Pierre Rabhi.
Absolument.
C'est donc pas par hasard que je dis que vous partagez le devant de la scène. Vous avez donc mis au point un spectacle. C'est assez rare en fait, je pensais que la semaine de l'écologie c'était surtout des conférences et là je découvre un spectacle, donc vous avez fait le choix de nous parler d'écologie sur un ton différent, dans un autre registre.
Bah exactement, disons que c'est mon propos, c'est un peu ma passion, c'est de transmettre ce en quoi je crois, donc en l'occurrence la défense de l'humain et de l'environnement, à travers un axe qui est un petit peu plus, disons, émotionnel. C'est-à-dire de raconter. Moi, je suis raconteur d'histoire. Je ne suis pas un expert sur le sujet. Donc, je ne donne pas des conférences pour expliquer, par exemple, si je prends mon propos, les difficultés liées aux pesticides ou aux OGM. Je raconte une histoire inspirée de faits réels pour tenter finalement de toucher des gens et éventuellement, idéalement, les mobiliser. Et peut-être d'aller toucher un public qui, aujourd'hui, n'est pas encore acquis à cette cause.
Votre spectacle se nomme « Des semences et des hommes ». Comment on en vient à écrire sur ce sujet ? Quel est votre parcours ?
Alors mon parcours, c'est... déjà je suis plutôt à la base un homme d'entreprise. Donc j'ai travaillé comme manager jusque... j'étais dans l'informatique, j'ai travaillé comme manager, directeur de service, jusqu'au jour où je me suis demandé finalement si c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Quel était le sens au fond ? Et puis j'ai complètement, j'ai tout changé, j'ai réorienté d'abord ma carrière professionnelle vers de l'accompagnement humain, vers la relation d'aide. Je suis resté en lien avec l'entreprise, puisqu'aujourd'hui j'agis dans les entreprises pour les aider à mieux fonctionner en ce qu'on appelle en intelligence collective, mieux fonctionner ensemble, générer moins de souffrance pour les salariés. Comprendre que nous sommes des personnes complètes et quand on est dans une entreprise, une émotion c'est ok, on n'a pas à en avoir peur, mieux se connaître, mieux comprendre les autres, etc. Ça c'est ce que je fais dans les entreprises. Et en même temps que j'ai recentré donc mon travail, mon job, je me suis aussi mis à écrire, ce qui était une envie depuis ma plus tendre enfance. Donc ça fait maintenant à peu près 10 ans que j'ai écrit. J'ai commencé par un premier roman qui s'appelait « Et si j'y croyais ?» pour transmettre, vous voyez, j'étais déjà dans cette veine de vouloir transmettre par une histoire des choses auxquelles je croyais fortement. En l'occurrence, de merveilleux outils de développement personnel. J'ai voulu les mettre en roman pour dire, mais voilà des choses qu'on devrait apprendre à l'école, plutôt que le tableau de Mendeleïev qui va servir uniquement aux personnes qui vont devenir chimistes. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'apprend pas à mieux communiquer, à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres et ce genre de choses? Donc j'ai commencé sous cette veine-là, et puis j'ai gardé cette idée d'être un vulgarisateur. Finalement, de prendre des sujets qui parfois sont complexes et de tout faire pour les rendre plus présentables, plus émotionnels, peut-être plus sexy et donner envie de cette manière-là. Bref, parler à l'émotion des gens, parfois aussi à leurs rêves, pour leur proposer de se mobiliser.
Votre spectacle est sous la forme de deux comédiens qui échangent une correspondance. D'où viennent ces personnages ?
Donc cet éditeur m'a proposé, était un peu touché par ce que je faisais et m'a demandé si je voulais bien faire un livre, carte blanche bien sûr sur la forme, à ce sujet. Et moi j'avais été touché il y a quelques années par une petite nouvelle qui a été redécouverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Inconnu à cette adresse » de Cressman Taylor, et qui est une nouvelle qui a été publiée en 1933 je crois, et qui préfigure de tout ce qui va se passer en fait avec le nazisme. Et c'est un échange de lettres. Inspiré par cette idée-là, mais j'ai eu envie d'écrire en fait sur cette problématique que je trouve assez proche finalement, puisque la question des pesticides et des OGM, c'est la question de la sélection et de l'eugénisme. Donc j'ai tout de suite fait un lien avec ce qui se passait et ça m'a donné envie de donner de l'écrire sous cette forme-là. Je n'ai pas pensé tout de suite à des lectures, je l'avais en arrière-plan. Comme j'ai déjà écrit du théâtre, je disais qu'une lecture serait possible. Et puis j'ai fait de merveilleuses découvertes, notamment celle de Michèle Couty, Michèle E, une femme, qui est comédienne, magnifique comédienne, metteur en scène, et qui a décidé de prendre en main la mise en scène de ce texte. Voilà, donc j'ai légèrement retravaillé, parce que l'oralité parfois est à travailler particulièrement pour de la scène, et ça a donné lieu à ce spectacle, donc qui sera joué ce soir à Die, et puis dans les grandes dates aussi, joué pendant 3 semaines dans un théâtre parisien début 2016.
Ça met en scène deux personnages qui s'écrivent. Comment ils en viennent à s'écrire? Et est-ce que vous pouvez préciser un peu, mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'OGM et de pesticides? Je me demande comment je pourrais être amenée à parler de ça dans des lettres.
D'accord, oui, ok, je comprends. Oui, bien sûr. Alors, à la base, on a affaire à une femme qui est un peu une caricature de la bourgeoise du 16e arrondissement parisien, vous voyez. Et puis, de l'autre côté, une épouse d'agriculteur indien. Il se trouve que cette femme française, qui est très à l'aise, parraine la famille indienne, comme pas mal de monde parraine des Indiens. Donc, c'est pour moi le prétexte du point de départ. Et lui demande tout simplement des nouvelles de ce qui est en train de se passer. Et l'Indienne de lui répondre qu'ils viennent de se lancer avec des semences OGM de coton, et que donc cette révolution va leur faciliter la vie, puisqu'ils vont avoir une meilleure productivité, et qu'en plus ils n'auront plus besoin de traiter à base de pesticides. Donc elle est extrêmement enthousiaste, et on suit dans un premier mouvement la Française qui est emportée dans cet enthousiasme, d'autant que son mari travaille aussi dans l'industrie de l'agro-fourniture, on va dire. Et puis, patatras, à un moment donné, on découvre ce qui se passe vraiment là-bas, hein, puisque je le disais, c'est inspiré de faits réels, à savoir que les mensonges sont fausses, à savoir que quand on utilise des OGM censés nécessiter moins de pesticides, au final, la plupart du temps, ils en réclament plus. Enfin bref, on découvre ce qui se passe vraiment là-bas, qui est un véritable drame, qui explique en partie le suicide de plus de 100 000 agriculteurs indiens, un drame qui s'étend au monde entier, qui est en train d'arriver en Afrique, par exemple, qui est présent en Amérique du Sud et qui nous menace en Europe, plus que jamais d'ailleurs.
Vous décortiquez les effets secondaires, les effets inattendus, mais quand même un peu attendus. Quand on connaît le sujet, on peut s'attendre à ce genre d'effet. Et puis sur le papier, ça a l'air très beau. Enfin, il me semble que c'est vendu comme ça.
Oui, sur le papier, puis par la parole, parce que c'est une armée en marche, quoi. Ce genre de grandes sociétés semencières ont une véritable armée déployée sur le terrain qui va faire des promesses et qui va dire, mais avec ces OGM, vous allez voir, on n'aurait plus besoin d'acheter des pesticides, vous allez voir, c'est génial, quoi. Vous allez multiplier votre productivité par 3, et quand on est évidemment dans des pays pauvres, c'est très, très séduisant. Mais je dis quand on est dans des pays pauvres, c'est très séduisant, mais quand on est dans des pays riches, en fait, c'est très séduisant aussi. Les riches voulant devenir plus riches, de toute façon, on a une course à la productivité qui fait que nous sommes ici en Europe ou en Amérique du Nord menacés par la même chose.
C'est un sujet d'actualité qui est régulièrement mis sur le devant de la scène par des nouvelles, on ne peut pas me voir, hein, mais forcément, là j'encadrerai cette guillemets, des innovations à double tranchant. Votre livre, malheureusement, il n'est pas prêt de tomber aux oubliettes alors.
Oui, malheureusement, comme vous dites, oui, c'est vrai.
Ça peut couvrir un peu toutes les innovations de ce genre, en fait. On parle de ce sujet-là en particulier, là c'est les semences, mais ce sont des innovations régulières et des drames réguliers.
Oui, alors ce qui est particulier quand même dans le sujet des semences, c'est qu'on est quand même sur une appropriation de la vie. C'est ça en fait,
c'est
le drame de cette histoire-là.
C'est le breveté du vivant, c'est ça?
Exactement, c'est le breveté du vivant, c'est de s'approprier la vie, c'est de dire, voilà, vous aviez... en Inde, vous aviez peut-être 500 espèces, 500 variétés de coton, mais il n'y en aura plus qu'une. Il n'y en aura plus qu'une, parce que nous l'avons sélectionné. C'est là où je fais le parallèle avec l'eugénisme hitlérien. Nous avons sélectionné quelle est la race qui doit continuer. Et après, on découvre, des années après, qu'en effet, cette semence-là ne supporte pas la sécheresse dans un endroit ou l'excès de pluie dans un autre, etc., etc. Donc ce sont des drames humains, mais colossaux. Et les agriculteurs en Inde, une bonne partie de ceux qui se sont suicidés, probablement comme un signal d'alerte de fond en avalant leurs pesticides.
Comment peut-on découvrir par surprise que la variété est une bonne chose? Je me pose la question. Comment peut-on sélectionner d'une façon drastique une espèce de coton, par exemple, et sembler surpris que cette espèce ne puisse pas s'adapter partout?
Ben, c'est ce que vous venez de dire, c'est sembler surpris.
On est d'accord.
Oui, c'est juste sembler. C'est des jeux de faux semblants. C'est des jeux de faux semblants. Je pense que ces sociétés investissent des millions ou des milliards dans de la recherche. Ensuite, il faut un retour sur investissement, point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Peu importe de mentir. Peu importe. Les intérêts sont tellement colossaux que pratiquement rien ne les arrête.
Il n'y a aucune candeur derrière ça, on est d'accord.
Ah oui, on est complètement d'accord. D'ailleurs, si je me lâche un peu sur le sujet, je vous dirais qu'au cours de mes... J'ai fait une plongée en apnée dans la noirceur. Quand j'ai fait la troisième partie, c'est-à-dire la petite partie d'enquête journalistique, à un moment donné, j'en pouvais plus. Puis tous mes amis m'envoyaient des trucs, regarde un article, un machin, un reportage, j'en pouvais plus. Mais une des dernières informations sur lesquelles je suis tombé, m'a stupéfait, c'est je suis tombé sur cette information que la fondation Bill et Melinda Gates, vous savez, la fondation de Bill Gates, est en train d'introduire les OGM de Monsanto en Afrique. Jusqu'à maintenant, ils n'y étaient pas arrivés. Ils sont en train de le faire avec la fondation Gates. Donc sous couvert, en plus de fondation avec... Regardez comme nous nourrissons le monde, on est en train de faire entrer des OGM en Afrique. C'est dramatique.
Sous couvert d'humanitaire, alors, carrément.
Sous couvert d'humanitaire, c'est dramatique. J'ai découvert par la même occasion, justement, que des pays, en l'occurrence les États-Unis, en échange d'aide humanitaire, ont exigé que des pays africains acceptent des OGM. D'ailleurs, certains ont eu le courage de refuser, mais au prix de mort. Voilà le chantage. Nous allons vous aider, mais si vous acceptez des OGM, c'est hallucinant. Voilà aussi dans quel monde on vit aujourd'hui, quoi. C'est bouleversant. Moi, j'ai été en fait j'ai été porté sur ce sujet il y a à peu près 2 ans dans la grande région dans laquelle nous sommes. C'était à Annonay, où j'étais à une soirée où Pierre Rabhi était dans la salle et ma première pièce de théâtre qui s'appelle Too Green or Not Too Green venait d'être jouée. Et les invités d'honneur étaient Pierre Rabhi et Vandana Shiva. Vandana Shiva qui vient d'Inde et qui a créé des unités de sauvegarde de semences à travers toute l'Inde. C'est ça qui m'a amené en fait sur ce sujet-là. J'ai appris des tonnes de choses, j'ai appris ses combats. Cette femme est une icône, à la fois en Inde, mais aussi dans le monde entier. Elle représente l'altermondialisme, c'est l'ennemi numéro un des firmes agro-semencières. Et elle a réussi à sauver des dizaines de milliers d'espèces de semences de toutes variétés.
Est-ce que c'est grâce à des gens comme ça que... Malgré votre enquête qui vous a amené dans la noirceur, vous gardez un peu d'optimisme et vous restez, on va dire, militant?
Ah oui, complètement. Je pense que c'est grâce à des gens comme ça, qui sont des combattants, Vandana Shiva à sa manière, qui est... C'est drôle parce que c'est une femme, mais elle a une énergie masculine dans cette force, dans ce combat où elle parle en conférence, en serrant la mâchoire, c'est très impressionnant. Et puis bien sûr, Pierre Rabhi, qui lui est un homme et qui en même temps a une forme de douceur, de poésie magnifique, d'humanisme contagieux, et qui incarne en permanence les propos qu'il porte. Tout ça, ce sont des voies d'espoir. Et puis en ce qui me concerne, là, c'est plus une question de personnalité que j'ai découverte assez récemment finalement. Je ne sais pas si on peut naître optimiste, mais je pense que je suis devenu dans mes premières années de vie, pour plein de raisons. Donc je suis habité par ce double mouvement de rébellion et d'optimisme, de rébellion contre les injustices derrière tout ce dont nous sommes en train de parler, parce qu'il y a une pauvreté aussi derrière, hein. Il y a le mensonge qui fait que nous voulons soi-disant nourrir la planète, alors qu'elle pourrait très bien se nourrir toute seule si on le faisait à peu près correctement. Donc de rébellion face à tout ça, et en même temps d'optimisme. Donc j'ai les deux mouvements, on les sent d'ailleurs, je crois, dans le texte et dans les soirées de ce spectacle, parce que a priori, c'est très émouvant et les gens sont touchés, mais en même temps, ça finit sur un espoir très fort. Et c'est ça, moi, que je veux conserver et à la fois transmettre. Ne soyons pas naïfs, ne nous satisfaisons pas de notre propre richesse, confort, etc. Regardons ce qui est en train d'arriver et soyons optimistes dans notre capacité à changer tout ça si on le souhaite vraiment. Et surtout si on le fait ensemble. Engagé et optimiste, c'est ça, en fait, mon propos, ce que j'ai envie de porter.
Vous le faites aussi, du coup, dans votre livre avec cette pièce, mais il est suivi d'un échange avec Pierre Rabhi.
Absolument.
Alors, vous avez été à la rencontre de Pierre Rabhi et vous avez retranscrit votre conversation.
Exactement. Donc c'est un échange à cœur ouvert, c'est toujours un bon moment, hein, un échange avec Pierre Rabhi. Quand je parle avec lui, j'ai l'impression d'avoir la chance de vivre un moment d'exception. Et voilà, on a eu cet échange que j'ai retravaillé pour le transformer en écrit, parce que l'oralité c'est une chose, l'écrit en est une autre, évidemment en restant 100% dans les propos. Et puis c'est du Pierre tel qu'on le connaît, donc très humain et très poétique, et engagé en même temps bien sûr.
Et teinté d'optimiste aussi, d'optimisme ?
Oui, bah y a un regard qui est objectif sur la situation. Et puis il y a l'optimisme chez lui qui est de porter la démonstration qu'une autre manière de faire est possible, puisqu'il le fait au quotidien. Et puis un grand sourire aussi, c'est ce que j'adore avec lui, c'est que en fait on se marre bien quoi, quand même avec Pierre Rabhi. Il y a des anecdotes, c'est très sympa parce qu'il aborde des sujets hyper profonds et puis il se marre en même temps d'une certaine manière. Il ne se prend pas non plus trop au sérieux, donc on n'est jamais effondré en fait. Et ça c'est quand même super important, parce que en même temps, vous voyez, peut-être ça se comprend avec ce que je viens de dire, mais moi je ne suis pas, je ne veux pas être un ayatollah de l'écologie. Je ne veux pas passer mon temps à critiquer ce qui ne fonctionne pas comme je pense qu'il faudrait qu'on fonctionne. Ça c'est très important, très très important. Et Pierre Rabhi a cette capacité de rester toujours humaniste d'une certaine manière. L'humain est important pour lui.
Et est-ce que on ressent une certaine, j'utilise un mot peut-être inadapté, mais une certaine foi en la jeunesse, en l'avenir? Est-ce que vous pensez que les jeunes générations prennent mesure, prennent conscience de ce qui se passe? Et est-ce que dans les rangs, on va dire les rangs d'écologie au quotidien, par exemple, hein, pour ne citer que ce rassemblement, mais est-ce que la jeunesse est au rendez-vous?
Mais malheureusement, je ne vais pas vous parler savamment de écologie au quotidien, puisque je suis arrivé seulement ce matin, j'en parlerai mieux demain. Par contre, sur un plan plus général, j'ai du mal vraiment à me faire un avis tout à fait clair, parce que je vois bien que énormément de jeunes sont beaucoup plus sensibles à l'environnement, et puis sont surtout moins dans cette course en avant du toujours plus, parce que c'est ça, en fait, c'est là qu'est le vice finalement. C'est là qu'est le logiciel qui fait du mal à tout le reste. Donc, pas mal de jeunes, je trouve, sont en rupture par rapport à ça. Et en même temps, énormément de jeunes sont quand même aussi dans les valeurs, entre guillemets, négatives de la société matérialiste qu'on a créée. Alors, j'ai vraiment du mal à avoir un avis clair. Je fais du yo-yo.
C'est peut-être parce que la jeunesse elle-même n'est pas claire. Et je pense que se positionner aujourd'hui, quand on a 20 ans, entre une certaine tyrannie de la société de consommation et puis regarder vers l'avenir de la planète, des futures générations, je pense que c'est compliqué de se positionner et de sortir de son petit confort personnel pour voir plus loin que tout ça.
Complètement, d'autant que la sollicitation est partout, elle est permanente et elle va en plus de plus en plus vite. Je disais il n'y a pas longtemps qu'une grande chaîne de marques de vêtements créent maintenant la mode au quotidien, c'est-à-dire qu'ils sont en Espagne et tous les jours, ils ont les chiffres de vente du monde entier, de tous les magasins qui remontent. Et à partir de là, ils voient ce qui commence à marcher légèrement et hop, ils recréent chaque jour des modèles qui changent légèrement. Ils savent que ça marche, boum, ils ancrent un petit peu plus. Et évidemment, c'est du plus que jetable. C'est la mode qui elle-même devient jetable. Donc c'est encore un cran supérieur. On savait que les objets étaient jetables, mais là, il y a une espèce de maîtrise de diktat en fait de ce qu'on va porter et malheureusement je vois énormément de jeunes qui fonctionnent là-dedans. Inutile de dire où sont fabriqués tous ces vêtements
et par qui
la suite
du livre, c'est donc, on l'a dit, une pièce, un échange avec Pierre Rabhi. Et puis pour être plus pragmatique, vous finissez votre ouvrage par une enquête, par des questions, on va dire, pas basiques, mais enfin très explicatives sur les sujets que vous abordez dans votre pièce et puis avec Pierre Rabhi. Moi, justement, je m'interroge sur précisément les thèmes que vous abordez dans ces parties-là.
Alors, j'ai divisé en deux grandes familles. C'est du côté de l'ombre, c'est-à-dire je m'autopose les questions qu'on a assez souvent en conférence, par exemple, sur ce qui ne va pas, OGM, pesticides, etc. Quelle est la réalité, hein? Et puis, après, le côté de l'espoir, quoi, de la lumière. Donc, du côté ombre, voilà, des questions comme, au fond, les OGM, ça a forcément des avantages, non? Si ça existe, quel est le vrai problème des pesticides? et tout ce genre de choses. Est-ce que Monsanto est si diabolique que ça? Voilà, donc des questions comme on peut les avoir dans un bar ou dans une conférence, auxquelles j'essaye de répondre de manière très synthétique en 4-5 lignes, puisque comme je disais, moi mon but c'est de vulgariser, de donner des réponses qui donnent envie de continuer. Et puis deuxième partie du côté de l'espoir, comment on pourrait faire autrement? Donc avec des questions évidemment qui tournent autour de l'agroécologie, du bio, de la permaculture, mais que se posent à juste titre des personnes qui ne sont pas encore rentrées dans le sujet. Par exemple, comment se fait-il que le bio soit plus cher? Voilà le genre de questions qui se posent à pas mal de monde, et pour lesquelles il faut apporter des réponses, il faut apporter de la culture.
Vous adressez donc pas qu'aux gens qui sont déjà concernés ou éduqués à ce sujet, en tout cas, la simple curiosité peut suffire là.
Oui, c'est un peu mon objectif, ouais, exactement.
De vous adresser à tout le monde.
Oui.
Et à partir de quel âge on peut lire ce livre?
Ah.
Ça c'est intéressant. Est-ce que les ados peuvent être touchés? Est-ce qu'ils sont en mesure de tout comprendre ou est-ce qu'il faut déjà un certain niveau de culture, même si c'est de la vulgarisation?
Non, je pense que les ados peuvent vraiment tout comprendre. Ouais, oui. Oui, d'ailleurs, nous on a la chance en parlant d'ados d'avoir un joli terrain de jeu à la maison et je l'ai vu avec nos enfants. Je l'ai vu aussi à travers certaines lectures justement publiques, comme ça va être le cas ce soir, qu'il y a des ados, voire des enfants, qui restent dans la salle. J'ai eu la chance d'être invité à un beau festival aussi au nord de Toulouse en fin d'année dernière, qui a fait l'honneur de me demander si je voulais bien en être le parrain cette année-là. Et il y a beaucoup d'enfants dans la salle. Et je me suis dit ça va être une catastrophe parce que c'est quand même une lecture émotionnelle. En fait, très peu en sont partis, mais il y avait même des petits. J'avais l'impression qu'ils captaient quelque chose au-delà des mots. C'est quelque chose qui m'a vraiment scotché, quoi.
Peut-être qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, tout
oui,
simplement.
Peut-être bien. Ouais.
On comprend ce qu'on peut comprendre selon l'âge qu'on a et la culture dont on dispose. Pour finir, à moins que vous ayez quelque chose de très important ou d'important
non,
seulement,
je...
on peut parler
J'aime
de...
beaucoup la manière dont ça se déroule, donc je continue à vous suivre.
On peut parler de votre projet en cours, qui est toujours sur le thème de l'agriculture, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mm-hmm. En tout cas, vous avez quelque chose qui est en cours d'écriture. Vous pouvez nous en parler?
Oui, absolument. Alors, c'est une forme différente, c'est une bande dessinée. Et c'est même une saga de bande dessinée. Donc, quand on dit saga, c'est que généralement, il va y avoir plusieurs volumes qui racontent une tranche de vie assez développée dans le temps, souvent sur plusieurs décennies. Et donc, avec la maison d'édition Glénat, avec qui je me suis entendu pour cette écriture, va sortir cette saga qui s'appellera Les Seigneurs de la Terre. Qui sortira pour le Festival d'Angoulême en janvier 2016 et qui là aussi racontera donc évidemment d'une manière différente comment la paysannerie en est arrivée là. Je trouve que la France est pas mal coupée de son agriculture et mon propos c'est à la fois de donner là aussi des informations différentes, mais de participer à donner des clés de réconciliation, à ce que la personne qui est coupée de l'agriculture la connaisse un petit peu mieux, à ce que voilà, quelque chose qui ressemble peut-être à une reconnexion de cet univers qui, pour beaucoup de monde, semble complètement éloigné. Donc comment on en est arrivé là, la malbouffe, enfin ce qu'on vient de dire, les OGM, les pesticides, etc., la productivité, et comment aussi, bien sûr, on pourrait faire autrement.
Je vois bien, quand vous parlez de déconnexion, allez vous promener dans un hyper près d'une grande ville. Et effectivement, je vois pas comment on peut faire le lien entre l'agriculture, l'élevage et ce qu'on trouve dans un supermarché et la façon dont les gens se nourrissent ensuite. Donc je pense que oui, effectivement, il y a un énorme problème de déconnexion. Les gens ne savent plus comment ils sont nourris et par qui.
Absolument.
C'est pas trop... je pense que dans le Diwa, on a encore un côté privilégié avec notre petit marché. Et cette déconnexion n'a pas eu lieu. J'espère qu'elle aura jamais lieu d'ailleurs.
Oui, et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des personnes derrière. C'est des agriculteurs, comme on les appelle aujourd'hui, parce qu'on ne les appelle plus des paysans, hein, sinon c'est une insulte.
c'est devenu, négatif, c'est
voilà.
Dommage.
Ce sont il y a des personnes quand même derrière. Donc, la génération de ceux qui sont maintenant, pour la plupart, à la retraite, ce dont j'ai la certitude et que je veux transmettre justement dans cette BD, c'est qu'ils ont réussi une mission. Elle est critiquable, parce que justement, c'est ce que je fais à travers ces différents ouvrages. Elle est critiquable. Mais il faut pouvoir se mettre un petit peu à la place de quelqu'un qui, en 1946-1947, entend du général de Gaulle, la France vous donne un objectif, c'est de rendre ce pays en autosuffisance parce que nous avons assez souffert. Et ils l'ont fait. Donc ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre que humainement, il y avait une raison. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Mais moi, j'aimerais qu'on arrive à dialoguer plutôt qu'à diviser. Eh oui, alors résultat des courses dans les coopératives agricoles, vous avez les agriculteurs bio qui se retrouvent critiqués par les agriculteurs non bio, et on a des réactions mais complètement incroyables, quoi. Alors qu'en effet, on est bien dans le même bateau, on n'est pas là pour défendre son précaré. Et je suis persuadé que c'est ensemble qu'on doit améliorer les choses et pas en lutte des uns contre les autres, parce que c'est ce qui fait aboutir à cette société de la division.
Alors tout à l'heure, vous parliez quand même des riches et des puissants, des grands industriels, de l'agroalimentaire, de la chimie, de l'agriculture, etc. Alors si on ne doit pas se diviser, nous, alors je vais mettre un mot énorme, mais les pauvres, en tout cas, les consommateurs, les gens qui produisons et les gens qui consommons directement et qui ne tirons pas les ficelles, est-ce qu'on peut quand même parler d'une résistance et d'une face à des gens? Il y a bien deux camps quand même.
En tout cas, ce qu'on voit, et on l'a vu récemment, c'est que le fossé en effet entre les plus riches de la planète et les plus pauvres s'accroît considérablement. Mais d'un certain point de vue, si on prend les gens, ok, on peut partir d'une sorte de division entre les puissants et les autres. D'un autre point de vue, on a des puissants qu'on mérite, on a des politiciens qu'on mérite, et du coup, c'est un peu dur, mais on a des problèmes qu'on mérite. Tout ce qu'on peut critiquer à l'extérieur de nous, tout ce contre quoi nous sommes en lutte, nous l'avons aussi à l'intérieur de nous. En gros, si on faisait tous la paix avec nous-mêmes, je pense que la société s'en porterait beaucoup mieux. Voilà, pour moi, c'est plus complexe que ça, d'une certaine manière. Si on veut le prendre d'une manière un peu plus rationnelle, ce que je viens de dire, il suffirait qu'on arrête d'acheter, c'est Coluche qui disait, il suffirait qu'on cesse d'acheter certains produits pour qu'ils ne se vendent plus. C'est idiot comme phrase, mais c'est aussi simple que ça. Je veux dire, si ces puissants, ils sont puissants parce qu'on les rend puissants. Les politiciens sont au pouvoir parce qu'on les a mis au pouvoir. Nous n'osons pas affirmer notre pouvoir parce que nous ne le faisons pas. Il y a une cohérence dans tout ça.
Le mot de la fin, ça pourrait être que, en tout cas, c'est entre nos mains.
Ah oui, c'est entre nos mains. Moi, c'est pour cette raison-là que je suis optimiste. L'homme a des capacités de rebond insoupçonnées. La seule question, en fait, que je me pose, personnellement, je suis persuadé que on peut créer un monde beaucoup plus égal, à tout point de vue. La question fondamentale pour moi, c'est est-ce qu'on va réussir à le faire sans avoir à traverser un drame monstrueux qui nous y forcerait? Est-ce qu'on va avoir la conscience nécessaire pour le faire sans ça? Pour moi, là est la vraie question.
Ce sera la question de la fin. En tout cas, je laisse les auditeurs de Radio Diwa s'interroger et puis éventuellement commenter l'interview pour donner leur avis à ce sujet. Ce serait intéressant d'avoir un débat.
Merci en tout cas, Amy.
Merci beaucoup Fabien Rodin de votre participation à cette interview. C'était très intéressant. Restez à l'écoute de Radio Diwa. À bientôt.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!